France Info.
Bienvenue dans Les Informés, c'est parti pour une demi-heure de décryptage, comme toujours avec Renaud Dely. Bonjour cher Renaud.
Bonjour Agathe.
Et ce matin, nous accueillons Fanny Guinochet, éditorialiste économie à France Info. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Et Jean-Jérôme Bertoulus, éditorialiste politique à France Info TV. Bonjour Jean-Jérôme. Deux débats à la une aujourd'hui, on va parler des socialistes. Vont-ils censurer Sébastien Lecornu? Mais d'abord, le Premier ministre tente d'amadouer les syndicats qui se mobilisent aujourd'hui. Il leur a envoyé un courrier hier.
Oui. Sébastien Lecornu leur a envoyé une lettre à la veille de cette mobilisation aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale, mobilisation qui survient deux semaines après celle du 18 septembre. Dans cette lettre, le Premier ministre entrouvre une porte à propos d'une des revendications des syndicats. Rappelons qu'ils manifestent aujourd'hui notamment pour réclamer une taxation des hauts revenus au nom de la justice fiscale, un coup de pouce pour le pouvoir d'achat ou encore l'abrogation ou la suspension, selon les organisations syndicales, de la réforme des retraites. Eh bien, sur cette réforme des retraites, le Premier ministre indique qu'il entend dialoguer et il promet notamment des avancées pour la retraite des femmes. Est-ce que cette ouverture est susceptible de convaincre un certain nombre d'organisations syndicales? Je vous propose d'écouter Pascal Coton, qui est vice-présidente de la CFTC, qui était d'ailleurs négociatrice au sein du fameux conclave sur les retraites. C'était hier sur France Info.
Il n'y a aucun détail, il y a juste une phrase qui dit que dans le budget de 2026, il va mettre quelque chose pour améliorer la retraite des femmes. Donc, qu'aujourd'hui, ils nous disent qu'ils nous ont entendus et qu'ils souhaitent le mettre dans le budget de 2026, bien évidemment que ça répond à une de nos demandes fortes.
Mais peut mieux faire en quelque sorte, raison pour laquelle d'ailleurs ce syndicat comme les autres se mobilise aujourd'hui. D'autres syndicats comme la CGT, par la voix de Sophie Binet ont fait savoir que cette lettre était hors sujet. C'est l'expression de la secrétaire générale de la CGT qui réclame, elle, cette organisation, l'abrogation de la réforme des retraites. Alors est-ce que Sébastien Lecornu peut renouer le dialogue avec les organisations syndicales et en particulier sur ce sujet, la réforme des retraites qui en quelque sorte colle au basque du second mandat d'Emmanuel Macron, comme le sparadrap au capitaine Haddock.
Fanny Guinochet, vous qui avez l'habitude de suivre les syndicats, d'échanger avec eux, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce de Sébastien Lecornu? Est-ce que c'est suffisant pour les convaincre, pour améliorer la relation?
Alors, ça n'est pas suffisant, évidemment, hein, mais c'est un premier pas auquel sera sensible surtout le bloc réformiste. Donc, on a entendu Pascal Coton, la négociatrice de la CFTC, mais aussi la CFDT, probablement, c'est un geste qui va lui faire plaisir, parce que ce sont des syndicats qui, depuis longtemps, se mobilisent pour que soit améliorée la réforme des retraites concernant les femmes, puisqu'on rappelle qu'en 2023, la réforme portée par Elisabeth Borne a beaucoup amputé les retraites des femmes. C'était une de leurs demandes en haut du panier, hein, une priorité de Marie-Lise Léon, la chef de file de la CFDT. Quand elle est rentrée dans le conclave, par exemple, elle avait dit dans les points qui sont essentiels pour nous, c'est revenir, améliorer, trouver des aménagements pour que les femmes ne soient plus pénalisées par cette réforme des retraites. Il y avait aussi la pénibilité, etc. Du côté de la CGT, finalement, la réaction de Sophie Binet était attendue. Elle claque la porte, elle dit c'est hors de propos, cette lettre est complètement hors sujet. Hein.
Elle avait claqué la porte du conclave.
Parce que pour la CGT, de toute façon, c'est l'abrogation de la réforme des retraites ou rien. Alors que du côté de la CFDT, en tout cas, ça peut permettre le dialogue, donc ce qui est important aujourd'hui pour Sébastien Lecornu qui cherche des alliés. Et puis dernier point, c'est aussi une façon, justement aujourd'hui les syndicats défilent unis dans la rue, donc CGT, CFDT et tous les autres dans une intersyndicale. Là c'est une façon aussi d'essayer de fracturer ce front syndical.
Jean-Jérôme Bertoulus, Sébastien Lecornu fait une annonce que François Bayrou n'avait pas faite. François Bayrou aurait pu la faire. Enfin, qu'est-ce que cela dit du Premier ministre, de sa stratégie, et est-ce que c'est bien joué selon vous?
Alors, François Bayrou aurait pu la faire, d'autant plus que François Bayrou l'a acté, puisque vous vous souvenez que le conclave s'était terminé brutalement et que l'ancien Premier ministre, François Bayrou, avait ajouté une séance supplémentaire, à laquelle d'ailleurs s'était rendue assez allante la CFDT. Et dans les points que le Premier ministre disait sur la table et qui semblait faire consensus, y compris du point de vue de l'exécutif, il y avait effectivement une amélioration de la retraite des femmes avec une meilleure prise en compte de plus d'années, des meilleures années pour les femmes. Ça, c'est un premier point. Maintenant, qu'est-ce que ça dit de la méthode? Eh bien, ça dit que, en fait, après avoir annoncé qu'il y aurait des ruptures sur le fond et sur la forme, on voit quand même que le Premier ministre est très prudent. Pourquoi ? Parce que dans ce courrier, d'abord, il y a quand même une mise en garde, ou disons une petite prudence, qui est « ça n'est pas un texte de cadrage, ça n'est pas une lettre d'orientation ». Autrement dit, le Premier ministre est très prudent, même dans ses propres assertions. Deuxièmement, et c'est vrai que ça a été rappelé par Fanny Guinochet, c'est un point important pour les syndicats réformistes, la réforme des retraites des femmes. Mais ça n'est pas le seul. Et j'ai presque envie de dire, ça n'est plus le principal. Le principal point, c'est vraiment la pénibilité. Et c'est là où on va dire qu'il y a une vraie fracture entre, et c'est là où s'est jouée d'ailleurs la fracture entre les syndicats réformistes qui voulaient un accord du conclave et le MEDEF, Patrick Martin, qui devra se faire tordre le bras pour réintroduire des critères de pénibilité.
C'est peut-être le prochain sujet, Renaud Dely, parce que Sébastien Lecornu dit au syndicat, on va se revoir, on va discuter.
Alors ce sujet, il l'évoque d'ailleurs dans la lettre en question, il dit lui qu'il est prêt à poursuivre les échanges avec les syndicats autour des enjeux de pénibilité et d'usure professionnelle. Donc il va moins loin que ce qu'il dit sur la retraite des femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous vous souvenez que Sébastien Lecornu, lorsque la rumeur avait couru il y a quelques jours, du fait qu'il pourrait rouvrir le conclave sur les retraites, il avait dit non, on ne va pas rouvrir le conclave sur les retraites, on ne va pas refaire cette très longue négociation assez interminable qui s'était déroulée sous le gouvernement de François Bayrou et qui avait fini par lasser les syndicats, notamment à cause de l'attitude, c'est-à-dire du refus final du MEDEF. Mais en fait, il le fait en quelque sorte sans le faire, c'est-à-dire qu'on voit bien que la marge de manœuvre est très étroite puisqu'il reprend de fait les conclusions à peu près auxquelles était arrivé le conclave, mais qui n'ont pas été validées, en particulier par le patronat, par le MEDEF, c'est-à-dire la question de la retraite des femmes. Rappelons, et je parle sous le contrôle de Fanny, à qui je vais céder la parole dans un instant, je crois que le projet d'accord du conclave évoquait un calcul de la retraite des femmes, non pas sur les 25 meilleures années pour les femmes sans enfants, mais sur les 24 meilleures années pour celles qui ont un enfant, et sur les 23 meilleures années pour celles qui en ont deux, me semble-t-il. Ou plus, et puis il y avait aussi cette réintroduction d'un certain nombre de critères de pénibilité, et c'est là-dessus que ça a capoté, et il s'avère qu'on voit que la marge de manœuvre de Sébastien Lecornu est quand même assez étroite, puisque pour l'instant, au stade où nous en sommes, il reprend en fait de fait les conclusions du conclave.
On en est où sur la pénibilité, Fanny ? Sébastien Lecornu nous l'apporte, c'était vraiment un nœud qu'on n'arrivait pas à démêler entre les syndicats. Comment c'est possible, alors que ça fait consensus, non, de se dire
non,
que dans des
tout.
Conditions
là là,
difficiles...
Ça ne fait pas du tout consensus.
Alors,
du côté du patronat, réintroduire des critères de pénibilité pour prendre en compte, par exemple, les vibrations mécaniques, le port de charge lourde, ça revient à recréer des régimes spéciaux, tels que le propose, selon eux, hein, selon le patronat, la CFDT. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur, effectivement, il faut prendre en compte la pénibilité, mais le patronat, pour faire simple, veut que ça soit de façon individuelle, c'est-à-dire que quand vous faites un métier pénible, eh bien, vous allez voir votre médecin du travail et on vous reconnaît une pénibilité, alors que les syndicats, comme la CFDT, poussent pour qu'on dise qu'on sait les cartographies des métiers où il y a des pénibilités avérées. Si vous êtes carreleur, bah vous avez les genoux en miettes au bout de 20 ans. Donc ça ne sert à rien de passer par un médecin du travail individuel, d'autant plus qu'il y a de moins en moins de médecins individuels. Donc
ils ont peur de quoi, les patrons ? Ils ont peur des abus ?
Ils ont peur qu'il y ait des cohortes, qu'il y ait des métiers entiers qui se retrouvent en pénibilité, qui partent plutôt à la retraite et que ça revienne à des régimes spéciaux, comme on a pu les voir et comme depuis des années les différents exécutifs essayent de les détricoter parce que ça pèse sur les comptes de la retraite. C'est vraiment ça. Donc il y a un point de principe de très fort et c'est ce qui a fait échouer le conclave en dernière instance parce que le MEDEF n'a absolument pas voulu lâcher là-dessus. Aujourd'hui, le MEDEF est dans une autre disposition. C'est peut-être ça aussi qui sera la chance de Sébastien Lecornu ou en tout cas peut-être une opportunité à saisir pour les syndicats aussi. C'est que le MEDEF, il vient d'éviter de très près, et encore on va voir demain la taxe Zucman, qu'il est en position de faiblesse, qu'il est fragilisé. Il fait un meeting le 13 octobre, le MEDEF fait un meeting, mais il n'est pas suivi par les autres organisations patronales. Il se retrouve nettement fragilisé, et en plus il a un exécutif qui quelque part lui dit, lui souffle, il faut faire un geste. Donc peut-être que là, la question de la pénibilité va pouvoir revenir. C'est aussi ce que joue aujourd'hui Marie-Lise Léon qui, donc de la CFDT, qui se retrouve être un pilier aujourd'hui de ces échanges.
Jean-Jérôme Bertolus, Sébastien Lecornu pris en étau entre le MEDEF d'un côté, la CGT de l'autre. Sa planche de salut, c'est la CFDT ou pas ?
C'est vrai que, enfin, on va dire une double planche de salut. D'une part, parce que la CFDT est un syndicat qui ne fait pas de la question de l'âge un totem. Et donc, oui, on peut parler avec la CFDT et les autres syndicats réformés. Et puis, oui, la CFDT, c'est en quelque sorte, on va dire, la branche sociale du Parti Socialiste. Ou plus exactement, le Parti Socialiste est la branche politique de la CFDT. Donc, arrimer la CFDT à un début d'accord, on va dire ramener la CFDT autour de la table, c'est absolument essentiel, effectivement, pour le Premier ministre.
Juste pour terminer, si la CFDT validait, par exemple, un accord autour de cette réforme des retraites, où il n'y ait pas de suspension, mais il y ait des aménagements qu'elle dise oui, comment ça sera difficile pour le Parti Socialiste derrière de s'y opposer. C'est vraiment ça, même si CFDT et PS sont évidemment séparés. Hein. Il y en a un qui est dans le champ social, qui défend les travailleurs, et l'autre qui est dans le champ politique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des alliances qui peuvent se faire, et Sébastien Lecornu joue cette carte-là.
Les informés, Renaud Dely, Agathe Lambray.
Avec Fanny Guinochet, éditorialiste économie à France Info, et Jean-Jérôme Bertolus, éditorialiste politique à France Info TV. On passe au second débat, Renaud. Les socialistes vont devoir trancher, censure ou non censure, décision imminente, a priori.
Et oui, parce que pendant que donc la mobilisation sociale continue aujourd'hui à l'initiative des syndicats, de l'intersyndicale, eh bien, les discussions politiques aussi continuent et vont reprendre, notamment demain, avec un rendez-vous particulièrement important. Les socialistes sont attendus à Matignon. Ils seront reçus par Sébastien Lecornu pour un rendez-vous en quelque sorte de la dernière chance. C'est un peu le paysage qui a été dessiné par Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qui a été échaudé par les entrevues précédentes et par les premières mesures dévoilées, ou les premiers refus plutôt dévoilés par le Premier ministre, notamment sur la taxe Zucman ou la réforme des retraites dont on parlait à l'instant. Les socialistes seront donc reçus demain. Alors, censure ou pas censure, à l'issue des discussions qui sont en cours donc sur ce projet de budget d'ailleurs dont la toute première version est transmise aujourd'hui au Haut Conseil des Finances Publiques. Voici ce que disait hier Raphaël Glucksmann, allié du Parti Socialiste dont il conduisait les listes aux européennes, eurodéputé Place Publique, c'était chez nos confrères de France Inter.
Si vous êtes prêt à changer le cap des 8 dernières années, si vous êtes prêt à donner du contenu au mot que vous avez employé, monsieur le Premier ministre, le mot de rupture, eh bien vous trouverez en nous des partenaires de discussion. Mais si par contre il s'agit de continuer, malgré l'absence de majorité, malgré le résultat des élections de 2024, eh bien ça ira dans le mur.
Qu'est-ce que ça pourrait donner cette réunion demain à Matignon, Jean-Jérôme Bertolus ?
Une sorte de quitoudou, parce que en fait les socialistes aujourd'hui, ils sont complètement dans le brouillard. C'est-à-dire il n'y a pas de position politique complètement arrêtée, censure ou non censure, mais ils constatent qu'il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu, et a fortiori de négociation avec le Premier ministre depuis sa nomination à Matignon. Beaucoup contestent qu'il y ait même des coups de fil, comme on a pu le voir ici ou là. Non, il n'y aurait pratiquement aucun contact de Matignon ou de l'entourage de Sébastien Lecornu avec les socialistes. Et donc, une partie des socialistes sont très interrogatifs. Ils disent, on a eu des discussions très poussées avec François Bayrou, avec les ministres de l'économie, avec leur cabinet, des discussions qui ont duré des heures, des nuits, et là, rien. Donc, effectivement, ils sont un peu interrogatifs. Deuxièmement, on parlait de la réforme des retraites. S'il devait y avoir un accord, les socialistes estiment que l'accord doit être suivi vraiment, on va dire, de véritables discussions. Pourquoi ? Qui devraient avoir lieu ce week-end, hein, avant la déclaration de politique générale. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, attention, même si on a un accord sur la pénibilité ou sur les femmes et autres, qu'on ferait nôtre, il faut être sûr qu'on n'aura pas d'article 40 une fois arrivé à l'Assemblée. Autrement dit, accord politique, mais une fois arrivé à l'Assemblée, on peut avoir des parlementaires qui disent juste avant le débat, on refuse en fait les articles que vous nous présentez en matière des retraites, qui améliorent la réforme des retraites, parce qu'elles alourdiraient les finances publiques. Et l'article 40 est très clair. Quand c'est le cas, effectivement, on zappe les articles. Donc, les socialistes, ils veulent effectivement qu'il y ait des avancées demain du Premier ministre. Et puis, s'il y a des avancées, que ça soit vraiment, on va dire, gravé dans le marbre ce week-end à Matignon. Ça fait beaucoup.
Renaud Dely.
Ce que redoutent les socialistes, c'est exactement ça. C'est y a-t-il ou pas, donc qui bluffe dans cette partie de poker en fait qui est en cours ? Est-ce que ce sont les socialistes qui bluffent en disant « si, on est prêt à censurer, d'ailleurs on n'a pas peur de la dissolution » Ou est-ce que c'est le Premier ministre qui bluffe quand il dit il va y avoir une rupture y compris sur le fond, et pour l'instant il n'en a pas donné, en tout cas, de substantifique moelle aux yeux du PS. Et ce que redoute le PS, c'est que ce qui a plutôt plu dans les premiers contacts, dans la méthode de Sébastien Lecornu, c'est, j'allais dire, le côté Calimero. C'est-à-dire, je suis le plus faible Premier ministre de la Ve République, ce qui est en jeu, ça n'est pas le budget Lecornu, c'est le budget de tout le monde, le pouvoir est au Parlement, ce sera à vous, mesdames et messieurs les députés, de décider le moment venu du sort du budget, de son contenu, mais aussi de mon propre sort. Ils y croient, d'abord ça correspond à une réalité factuelle, hein. C'est effectivement le Premier ministre le plus faible politiquement, qui a le socle politique le plus faible, et le pouvoir est de fait au Parlement. Le problème, et ce que redoutent les socialistes, c'est qu'au Parlement, eux-mêmes ne sont pas majoritaires, ni les socialistes et leurs alliés potentiels, même l'ensemble du NFP, du Nouveau Front Populaire, si on y intègre les Insoumis, et c'est loin d'être évidemment la parfaite harmonie entre eux. Et donc, le Premier ministre Sébastien Lecornu peut très bien envoyer un certain nombre de sujets, justement, à discrétion du Parlement. Et là, les socialistes se retrouvaient en minorité et donc en reviendraient au point de départ avec un budget qui ne ressemblerait pas à leur revendication. Et donc, ils craignent un peu ce piège. Et c'est vrai que les premières lignes rouges, en quelque sorte, qui ont été posées par Sébastien Lecornu, pas de taxe Zucman, pas de retour de l'ISF, pas de suspension de la réforme des retraites, les ont un peu échaudés. Quand il a commencé à dévoiler ses cartes, lui qui répète « Non, mais j'en ai pas, en gros, je joue au poker avec une paire de deux », bah, visiblement, il a l'air d'être un peu moins flexible que ce qu'il a, en tout cas sur le fond, que ce qu'il a essayé de mettre en scène sur la forme.
Fanny Guinochet, vous nous révéliez il y a quelques jours que Matignon réfléchissait à une taxe pour sur les holdings, ces montages financiers qui permettent de payer moins d'impôts. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des concessions que pourrait faire Matignon pour amadouer le PS?
Alors une chose est sûre, c'est qu'effectivement Matignon réfléchit à plusieurs choses qui pourraient être proposées au Parti Socialiste dans ce budget pour alourdir la fiscalité des plus riches. On parle de la flat tax qui serait augmentée, qui est donc un prélèvement sur les revenus, sur les dividendes, sur les plus-values. Voilà, aujourd'hui c'est à 30%, peut-être que ça serait un peu plus. On parle d'une contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises qui pourrait être prolongée. L'année dernière, elle avait rapporté 8 milliards d'euros, là elle en rapporterait 4. On parle aussi d'une hausse de la CSG, alors en fonction des revenus. Vous voyez, il y a plusieurs choses sur la table. La difficulté pour le Parti Socialiste, c'est que c'était facile de brandir la taxe Zucman.
C'est pas aussi symbolique d'avoir plein de petites taxes éparpillées, c'est ça le problème.
Et c'est ça le risque pour eux, c'est-à-dire même si au final ça peut rapporter plus, entre guillemets, hein, dans les comptes de la Sécu et de l'État, et dans les comptes publics, la taxe Zucman, en plus il y a eu un tel débat autour, tout le monde en a entendu parler, c'est simple, c'est 2% sur le patrimoine des plus riches, c'est facile, c'est vraiment un totem. Donc arriver ensuite derrière leurs électeurs, même une partie de la gauche, en disant bah, on a obtenu une contribution qui serait prolongée un an de plus, ou la flat tax qui passe de 30 à 33%.
Mais avec des acronymes compliqués.
Ça fait pas le même effet. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Matignon va alourdir la fiscalité des plus aisés, notamment sur tout ce qui est patrimoine et non pas patrimoine professionnel, puisque c'était là-dessus, pas sur l'outil de travail, puisque c'était là-dessus que portait en partie la taxe Zucman, et c'était là-dessus qu'il y avait toutes les oppositions et les levées de boucliers.
Qui dit censure dit potentielle dissolution, vraiment ils sont... Ça ne leur fait pas peur aux socialistes ?
Un petit mot sur taxe Zucman ou pas. Ce qui est vrai, c'est qu'ils ne peuvent pas aller devant leurs électeurs avec des prochainement ou avec des mesures techniques trop compliquées. Et donc, en fait, ils disent une chose très simple, les socialistes. Ils disent, s'il n'y a pas de taxe Zucman, ayons un dispositif, mais qui rapporte au moins 15 milliards d'euros, dit Olivier Faure. Et puis dans son entourage, on dit on s'accorderait sur 10 milliards. Un petit mot maintenant, est-ce qu'il bluffe ou pas? Je peux vous assurer que même les modérés au sein du Parti Socialiste, même ceux qui aimeraient un accord à tout prix, sont aujourd'hui la corde au cou, dans leur circonscription, pensent qu'il va y avoir une dissolution, estiment que c'est pas tellement de leur fait, mais que c'est l'histoire politique là qui s'écrit. Et c'est pour ça que, par exemple, peu ont pris des vacances cet été, tous bossent dans leur circo, et peu croient dans la note au sein du Parti Socialiste qui verrait, en cas de dissolution, peut-être 20 députés de plus s'il y a un accord au sein de la gauche. Ils pensent plutôt qu'effectivement, il y aurait 20 députés de moins.
Mais juste pour savoir, les socialistes ne sont pas enthousiastes à l'idée d'une dissolution. Hein. Je rejoins ce que dit Jean-Jérôme Bertolus. Et même s'ils disent la gauche hors insoumis pourrait progresser, d'abord, qu'est-ce que c'est que la gauche hors insoumis? On voit bien, on a entendu Marine Tondelier, la Fédération nationale des Verts tout à l'heure, des écologistes, on voit bien qu'ils penchent plutôt du côté des insoumis que du côté du PS. Donc ce calcul-là est très risqué pour le PS. Mais ceux qui ont encore plus peur d'une éventuelle dissolution, ce sont les députés du Bloc central. C'est-à-dire que ce sont les macronistes qui ont d'abord le plus à perdre d'une dissolution. Et qui dit Bloc central, dit évidemment Emmanuel Macron. Le premier perdant probable d'une éventuelle dissolution, ce serait d'abord le chef de l'État.
Et ça fragilise ça, le Bloc central face aux socialistes. Merci beaucoup Renaud. Merci à nos informés aujourd'hui, Fanny Guinochet, éditorialiste économie à France Info, et Jean-Jérôme Bertolus, éditorialiste politique à France Info TV. Vous retrouvez les informés du soir à 20h avec Victor Maté.